Hello famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Actuellement, il y a un gros virus de grippe. Voilà, un gros virus de grippe. Donc vraiment pour commencer cet épisode, le gros conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de correctement se couvrir, prendre soin de soi, ne surtout pas négliger son bien-être, enfin la prise de ses médicaments. Si tu sais que tu dois prendre du magnésium, prends ton magnésium. Si tu sais que tu dois prendre des vitamines, prends tes vitamines. Vraiment, c'est vraiment par ça que je veux commencer cet épisode. Couvrez-vous, surtout si vous êtes dans des pays où il fait froid. Ne négligez surtout pas ça. Sachant que vous pouvez avoir une grippe, parce qu'il y a un gros virus de grippe actuellement, mais vous pouvez aussi prendre froid si vous ne vous couvrez pas assez, sachant que pour avoir déjà été victime de la prise de froid en temps d'hiver, je peux vous dire que prendre froid, ça n'a rien à voir avec la grippe, hein. Ça n'a vraiment rien à voir avec la grippe. Donc, mon gros conseil pour commencer cet épisode, c'est vraiment ne jouez pas avec tout ça. Ne jouez pas avec tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de la mini-série. Aujourd'hui, on est dans un format assez particulier. Pourquoi? Parce que on vient parler de la mini-série alors que la mini-série sur la souffrance, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez que c'est un format qui est essentiellement vidéo. Et du coup, c'est un peu pas normal. C'est anormal qu'aujourd'hui le format il soit audio, mais je me suis dit bon, j'ai pas trouvé d'intervenant. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas trouvé d'intervenant que je vais arrêter la mini-série parce qu'il faut bien la finir un jour? Je me suis dit allez, je vais quand même le faire. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la mini-série c'est un nouveau concept que j'ai créé il y a quelques temps, déjà un peu plus d'un mois, sur l'Instagram du podcast, où en fait je reçois un intervenant différent sur une thématique différente, mais qui aide à répondre à la question: la souffrance a-t-elle un sens? Donc, pour l'instant, on a eu trois épisodes, enfin non, on va dire quatre épisodes. Dans un premier épisode, on a fait une petite introduction sur le fait que la souffrance, finalement, c'est une expérience universelle par laquelle tout le monde passe, mais que ce qui fait la différence, vis-à-vis de la souffrance, en fait, c'est comment est-ce qu'on la traverse et comment est-ce qu'on la prend pour ce qu'elle peut nous apporter après l'avoir vécue. Donc ça, c'était un premier point. Du coup, on a vu que quand en fait on souffre, la question de qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, elle est vraiment légitime. Et ça venait un peu comme un complément de l'analyse du livre d'Habacuc qu'on avait faite juste avant. Du coup, c'est par ça qu'on a commencé. Ensuite, après avoir essayé de voir comment est-ce que finalement, certes, des fois, la souffrance est comme une conséquence des actions qu'on a faites, mais parfois c'est juste pour nous faire grandir dans la foi. On a observé aussi comment est-ce que de fait la souffrance fait réfléchir. Après avoir vu comment est-ce que la souffrance fait réfléchir et pourquoi est-ce que c'est important de bien l'apprendre, sur ça il y a un article sur le site du podcast qui est entièrement dédié à ce sujet. Il est écrit très intéressant, ça se lit vraiment vite. Il y a Dieu et Jésus, donc ça c'est l'épisode 4, Dieu et Jésus face à la souffrance. Parce que finalement, des fois quand on souffre, en fait, on a tendance à oublier que Jésus, parce qu'il est passé par la souffrance, peut nous comprendre en fait. Dieu et Jésus ont fait face à la souffrance et du coup, ils sont extrêmement bien placés pour pouvoir nous comprendre, sachant qu'en plus, Jésus a vraiment traversé toutes les sortes de souffrances que tu peux connaître en tant qu'être humain. Donc, le deuil, l'abandon de tes amis, de tes camarades, la perte d'un être cher, voilà, la souffrance physique, la souffrance psychologique, genre vraiment, il a tout connu de ce qu'on peut connaître en tant qu'homme, et j'ai envie de vous dire de manière mille fois pire, parce qu'il est allé jusqu'à mourir sur une croix. Donc ça, c'est vraiment des idées importantes. Et aujourd'hui, on va parler du fait de traverser la souffrance avec le soutien de l'autre. Parce que souvent, quand on est dans des périodes de souffrance, on a tendance à oublier que il y a des personnes autour de nous qui sont disposées à nous aider. Et que la souffrance, étant donné la souffrance, c'est pas une fin en soi, c'est un état. C'est-à-dire, en général, c'est une période. Et c'est vraiment, il y a cette, enfin, la vie, c'est vraiment un enchaînement de souffrance, pas souffrance, souffrance, pas souffrance. Tu vas pas souffrir tout le temps. Ta souffrance, forcément, elle va arriver à un terme. Mais en attendant de pouvoir la traverser, tu la traverses, certes, avec le soutien de Dieu, de Jésus, si tu es croyant. Mais si tu n'es pas croyant ou si tu es, on va dire, moins avancé dans ta foi, tu auras tendance à vouloir te reposer sur tes camarades, sur les personnes qui t'entourent, sur tes amis. Quand tu souffres, je pense que vraiment pour une personne qui souffre, l'un des pires sentiments qu'on puisse éprouver, c'est l'impression que personne ne peut te comprendre, tu vois, que personne ne peut te comprendre. Et en général, on arrive plutôt vite à cette conclusion. Quand on est vraiment en train de souffrir et qu'on a l'impression que ce qu'on vit, c'est complètement inédit par rapport aux autres souffrances qu'on a déjà vécues. Surtout quand la souffrance, elle est vraiment psychologique, si je peux dire ça comme ça. T'as vraiment l'impression que personne ne peut te comprendre parce que personne n'a jamais vécu ce que tu as vécu. Si vous avez écouté le tout premier épisode du podcast, l'épisode 0, dans lequel je fais mon témoignage sur comment est-ce que finalement ma première année m'a fait énormément souffrir, mais m'a aussi permis de me rapprocher de Dieu. Il y avait plein de moments où je me disais que personne ne pouvait ressentir ce que je ressentais en fait et que ça ne servait absolument à rien d'en parler, d'extérioriser, etc. Alors que parler, extérioriser, ça fait vraiment la différence dans la traversée de l'épreuve. J'ai recommencé à lire le livre de Job, qui est vraiment le livre dont je pense j'ai le plus parlé dans ce podcast, en fait, depuis qu'il a commencé. Il faut savoir que Job, en fait, quand ses malheurs ont commencé, il a ses amis qui sont venus le voir. Parce que, encore une fois, la constitution du livre de Job, c'est quoi? On te présente. La plus grande partie du livre de Job, c'est un dialogue entre Job et ses amis, tu vois. Au début, on te présente Job, on te fait une petite contextualisation. Après, t'as ses malheurs qui commencent. Et quand ses malheurs commencent, t'as ses amis qui viennent le voir. Et du coup, en fait, tu observes le dialogue, la conversation entre les différents. Si je peux dire. Les différents personnages, donc Job et ses amis. Tu as Job qui va prendre la parole, ensuite tu as un ami qui va répondre, après tu as un autre qui va répondre, parce que tous ensemble, en fait, finalement, ils font quoi? Ils essayent de comprendre qu'est-ce que Job a fait pour mériter ça, tu vois. Ils essayent de voir comment est-ce que c'est possible que, voilà. Et dans le cas de Job, même si Job se plaint énormément du malheur qu'il traverse, finalement, on sent en fait que le fait de le traverser avec ses amis, le fait qu'il puisse l'extérioriser, ça a fait la différence. Par exemple, là, si je vous lis Job au chapitre 2, donc on est vraiment dans le début du livre de Job, chapitre 2, verset 11, donc après que les malheurs de Job aient commencé, on te dit, enfin, c'est écrit, trois amis de Job ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ce sont Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama. Chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Donc, bon, allez, je vous lis le verset 12. Je lis le verset 12. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est retombée sur leur tête. Puis, ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. Donc c'est ainsi que se termine le chapitre 2 du livre de Job. Et le chapitre 3, au verset 1, on te dit... Enfin, il est écrit, il faut que j'arrête de dire... On te dit franchement... Voilà. Donc Job, chapitre 3, verset 1. Après tout cela, Job s'est mis à parler. Il a maudit le jour de sa naissance. Je n'irai pas plus loin, mais je vous invite vraiment à lire. Mais le fait est que quoi? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà, on te dit pas trois camarades de Job, on te dit trois amis de Job. Les amis, on a fait vraiment deux épisodes pour parler de l'amitié, de comment est-ce que la Bible voit les amis et de comment est-ce que moi aussi je conçois l'amitié à partir de ce que la Bible dit, donc dans le livre de Siracide. Et en fait, il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui est ton ami et quelqu'un qui est juste ton camarade, un pote avec qui tu parles, etc. Ton ami, c'est vraiment la personne qui est là avec toi, quel que soit le moment, c'est-à-dire dans le bonheur comme dans le malheur. Des amis de Job ici ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Chacun est arrivé de son pays, c'est-à-dire ils ont quitté chez eux pour venir rester avec Job parce qu'ils savaient que sa souffrance était grande. Et ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler parce que c'est leur ami. Parce qu'ils n'aiment, ils se réjouissent pas en fait de voir leur camarade dans la peine et ils ne peuvent pas y rester indifférents. Et si en fait vous regardez le livre de Job, à aucun moment c'est Job qui les a appelés, tu vois. Job les a pas appelés, Job il vivait sa souffrance, il remettait sa vie en question, etc. Mais eux, parce que ce sont ses amis, ils ont décidé de venir rester avec lui. Ils ont décidé de venir partager sa peine. Et bon, il y a le petit verset sur le fait qu'ils l'ont vu de loin, ils l'ont pas reconnu tellement, voilà. Ils ont déchiré leurs vêtements. Parce qu'il faut savoir que dans l'Ancien Testament, vraiment, quand tu déchires ton vêtement, c'est un signe de deuil énorme. Genre, vraiment. Moi, avant, je comprenais pas c'était quoi le lien mais de déchirer son vêtement, mais en fait, culturellement, c'était ça. Culturellement, tu as un grand malheur qui t'arrive. Job lui-même, il a déchiré ses vêtements quelques versets plus tôt. Vraiment, quand tu as un grand malheur qui t'arrive et que tu es complètement dépassé parce que tu ressens, parce que tu vois, parce que tu vis, tu déchires tes vêtements, tu vois. Tu déchires tes vêtements. Et ensuite, le verset que je trouve super intéressant, c'est vraiment le verset 13 sur « Ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. » Personne n'a parlé parce qu'il voyait que sa souffrance était très grande. Et je pense que des fois, en fait, quand on souffre, on a vraiment juste besoin d'une oreille attentive. Parce que comme je vous ai dit, premier verset du chapitre 3, après les 7 jours et 7 nuits où personne n'a parlé, Job lui-même a pris la parole parce que finalement, la présence de l'autre, donc de ses amis, lui a donné la force en fait d'extérioriser tout ce qu'il avait sur le cœur. Et ça a vraiment fait la différence dans la façon dont il a vécu l'épreuve et de comment est-ce qu'il l'a traversée. C'est pas forcément que tout est devenu plus rose ou qu'il a tout de suite compris ce qui n'allait pas ni pourquoi il vivait ce malheur, etc. Sachant que le livre de Job, c'est quand même... Je sais plus il y a combien de chapitres dans Job, mais je crois qu'il y a une quarantaine de chapitres. Enfin, il y a beaucoup de chapitres dans Job. Donc finalement... Tu te rends compte que, bon, ça n'a pas tout de suite changé sa situation, mais ça a vraiment changé la façon dont il le vivait. Et souvent, et c'est un peu, cette histoire de traverser l'épreuve avec le soutien de l'autre, c'est un peu à double face, tu vois. Autant il y a le fait que toi, à ton échelle, si tu souffres, il faut que tu puisses avoir le courage d'en parler pour extérioriser dans la mesure du possible, voilà, d'en parler pour extérioriser, pour t'aider à te sentir mieux. En même temps, il faut que la personne en face réalise qu'elle doit être une aide pour toi et qu'elle doit du coup être attentive. Parce que souvent, en fait, quand les personnes souffrent, elles n'ont même pas besoin que tu leur donnes des conseils. Elles n'ont même pas besoin que tu trouves la solution à leurs problèmes. Elles n'ont même pas besoin que tu fasses tout changer du jour au lendemain. Ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'une écoute attentive pour pouvoir traverser leur épreuve. Les amis de Job, ils sont arrivés, ils n'ont pas commencé à parler en fait. Ils se sont vraiment assis avec lui pour rester avec lui et ils n'ont rien dit. Et ils ont parlé uniquement pour répondre à ce que Job avait dit parce qu'ils se sont rendu compte que ce dont Job avait besoin pour traverser l'épreuve à ce moment-là, c'était vraiment d'oreilles attentives. Et je pense que c'est toujours valable pour nous, même à notre échelle, parce que c'est vrai que, en tout cas dans la plupart des cas, lorsqu'une personne est en train de souffrir et qu'elle se confie à toi, si tu essaies de lui donner une solution tout de suite, elle ne sera pas d'accord. C'est très très rare qu'une personne traverse un grand malheur, que tu essayes de lui donner une solution et que tout de suite, elle valide la solution. En général, ce sera « Non, tu peux pas comprendre. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, non. Patati patata. » En fait, la plupart du temps, ça ne passe pas. Et c'est pour cela que des fois, quand la personne est dans une souffrance très grande, le plus important, c'est que la personne sache que tu es là pour l'écouter quand elle traverse ce malheur et que tu es disponible, en fait, pour dialoguer avec elle, même si tu ne vas pas lui donner une solution pour le coup. C'est tout ça qui est le soutien, en fait. C'est tout ça qui te permet de soutenir et de te sentir soutenu. C'est-à-dire que tu sois la personne qui ne souffre pas, qui aide la personne. Enfin, tu souffres aussi, hein, parce que voir quelqu'un que tu aimes souffrir, forcément, ça te fait mal. Mais je sais pas si vous comprenez l'idée. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que pour un chrétien, le fait de traverser finalement une épreuve avec le soutien des autres, ça fait une différence significative, parce qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, finalement, genre, ça reflète vraiment des principes qui sont centraux dans la foi chrétienne. Déjà là, l'idée que j'ai développée finalement, si je dois la synthétiser, c'est vraiment cette idée que le partage, le fait de partager, enfin, le partage allège le fardeau en fait. Le fait de partager ce que tu vis en termes de souffrance, ça allège le fardeau que tu portes. Et si je dois prendre une rêve biblique pour illustrer ça, c'est vraiment Galates chapitre 6 verset 2 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Tu vois. Partager son épreuve avec quelqu'un, finalement, ça aide à alléger le poids émotionnel et mental de ta souffrance en permettant à la personne de ne pas se sentir seule ou submergée. Et c'est exactement en fait ce qu'on observe dans le livre de Job. Si je dois maintenant développer cette idée-là hors du livre de Job dans d'autres points, et je vais essayer vraiment d'être rapide parce que voilà. Déjà, il faut savoir que nous, les chrétiens, on est définis comme le corps du Christ. Donc, lorsque moi, je te soutiens, toi, dans ton épreuve, moi, en fait, j'agis comme une extension tangible, c'est-à-dire que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu peux sentir concrètement, sans faire d'effort, de la présence et de l'amour de Dieu. On est les membres du Christ, en fait. On fait partie du corps du Christ. Donc, on peut même dire que ça incarne l'idée de que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tout le corps du Christ souffre avec toi. Et c'est pour ça que tu n'es pas seul, en fait. Et vu que ça, c'est une extension tangible de la présence et de l'amour de Dieu, c'est un rappel vraiment important de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ça rappelle que Dieu n'abandonne pas ses enfants et agit souvent à travers les relations humaines. Il y a des personnes, lorsqu'elles font des choses pour t'aider pendant que tu es en train de souffrir, tu as vraiment l'impression que c'est comme si Dieu les a envoyées spécialement pour toi, pour qu'elles soient disponibles à ce moment précis. Il y a des personnes que tu vas rencontrer en période de souffrance qui vont t'aider à aller vraiment mieux. Et maintenant, après ça, vous n'allez plus avoir de rapport l'un avec l'autre. Vous n'allez plus avoir de rapport ensemble parce que c'est comme si elle était prévue pour une période précise de ta vie et elle a rempli, entre très grosses griffes, sa mission. Sa mission. Après, faut dire que là, dans le livre de Job, c'est pas comme ça. Mais je pense qu'un autre point qu'il est important aussi de souligner, c'est que c'est vraiment une source de prière et d'intercession. C'est-à-dire le soutien communautaire, enfin communautaire c'est peut-être un gros mot, mais le soutien amical entre amis, ça inclut souvent la prière, où d'autres vont intercéder en fait directement auprès de Dieu. Des fois, t'es tellement mal que t'as pas la force de prier en fait. Tu dois prier, mais des fois t'as pas la force de prier. T'as pas la force de faire autre chose que te plaindre. Tu es tout simplement à court de force. Après, Jésus lui-même dit que tous ceux qui sont à court de force ont qu'à venir vers lui. Lui, il va nous aider à... Il va alléger nos fardeaux, il va nous aider. Mais de la même façon, nos amis au quotidien allègent également nos fardeaux. Pas mieux que Jésus, bien sûr, mais ils allègent également nos fardeaux et ils sont une source de prière et d'intercession parce qu'un ami qui t'aime vraiment et qui veut vraiment que tu ailles mieux, il va prier pour toi en fait. Il va prier pour que tu ailles mieux. Il va intercéder directement auprès de Dieu pour toi parce qu'il sait que tu n'as pas forcément la force de prier et que tes prières ne seront pas forcément objectives à ces moments-là. Du coup, il va prendre sur lui pour pouvoir t'aider et faire des prières pour toi. Et puis enfin, comme je vous ai dit, le truc est un peu à double tranchant. C'était un peu l'idée que je disais il y a peut-être 10 minutes, mais que je n'arrivais pas à très bien expliquer. C'est-à-dire que finalement, le fait d'aider quelqu'un dans... Le fait plutôt de se faire aider en période de souffrance, c'est une préparation pour pouvoir aider à ton tour. Parce que recevoir du soutien, ça peut aussi transformer une épreuve en une opportunité pour plus tard offrir ce même soutien à d'autres. Le soutien que tu as reçu pendant que tu étais mal d'un de tes amis, lorsque tu vas voir ton ami dans une situation difficile, tu vas vouloir lui rendre en fait ce qu'il t'a fait. J'ai envie de te dire, c'est humain. C'est... En tout cas, normalement, ça devrait se passer comme ça. Si on prend 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, ça dit « Il nous réconforte dans il, Jésus, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans quelques détresses par le réconfort que nous-mêmes recevons de Dieu. » Je sais pas si tu vois. Donc ça, c'était vraiment pour la partie « Traverser l'épreuve avec le soutien de l'autre, l'autre étant tes amis. » Là, maintenant, on va dire deuxième partie de cet épisode, c'est traverser l'épreuve avec Jésus lui-même. Voilà. Parce que Jésus, c'est ton ami. C'est quelqu'un qui te veut du bien, qui te voudra toujours du bien. Mais j'avais pas envie d'inclure Jésus dans l'autre, tu vois. Même si Jésus aussi, c'est ton ami, j'ai envie de dire, c'est pas ton ami au même titre que ton ami. C'est pas ton ami au même titre que ton ami, en fait. Donc il y a vraiment le fait de traverser l'épreuve avec Jésus et traverser l'épreuve avec Dieu et le Saint-Esprit. Et j'ai trouvé en fait que les psaumes étaient vraiment hyper intéressants comme aide pour traverser l'épreuve. Bon, vous pourrez me dire, il y a plein de livres dans la Bible, pourquoi traverser l'épreuve à l'aide des psaumes spécialement? Je trouve que pour... Après, j'ai envie de dire pour nous les jeunes, mais en vrai, c'est une phrase vraiment qui veut rien dire parce que... Je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde. Traverser l'épreuve à l'aide des psaumes, c'est une pratique qui est profondément enrichissante pour les chrétiens. Pour moi, à mes yeux, voilà. Parce que finalement, en fait, les psaumes, du coup, ont été écrits dans leur grande majorité par David. David qui, lorsqu'on dit son... Enfin, David, il avait vraiment un comportement qui était très, très, très humain. Comme pratiquement tous les personnages de la Bible. Hein. Mais je veux dire, David, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, c'est très... facile de réussir à éprouver ce qu'il a éprouvé dans un certain sens, en fait, ou d'effectuer un rapprochement avec lui. Parce que du coup, les psaumes, ça t'offre vraiment un langage pour exprimer la douleur, la recherche de Dieu, et trouver surtout la paix dans les moments de souffrance. Par exemple, ce qui m'a fait vraiment ce déclic, c'est quand j'ai lu le psaume 13, les psaumes, du coup, ils sont faits pour être chantés. Voilà, au passage, si jamais vous ne saviez pas, les psaumes, ils sont vraiment faits pour être chantés. Mais du coup, le psaume 13, verset 2, qui dit « Jusqu'à quand, Yahweh, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand formerai-je en mon âme des projets? Et chaque jour, le chagrin remplira-t-il mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Alors, je ne sais pas si vous... voyez, peut-être parce que je le dis avec une voix toute calme, toute douce, je sais pas, mais je sais pas si vous voyez la profondeur de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se sent tellement abandonné par Dieu qu'il dit que Dieu est en train de l'oublier pour toujours. Ce qu'on sait être impossible et vraiment être dit et écrit sur le coup de la souffrance, mais moi je sais que même moi, à mon échelle, il y avait des fois où vraiment j'étais là, je souffrais, je me disais mais genre, est-ce que j'ai fait un truc qui fait que Dieu veut plus de moi, en fait, tu vois? Est-ce que j'ai fait un truc qui fait que Dieu veut plus de moi? Est-ce que j'ai fait un truc qui justifie ce que je suis en train de traverser là, etc. Bon, ça, on en parle dans l'épisode sur le qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais vraiment, voilà. Et en fait, les psaumes, du coup, ça reflète déjà, pour commencer, l'humanité de nos émotions. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on peut vraiment se sentir concerné parce que David dit. Et les psaumes sont remplis d'expressions qui sont vraiment des émotions humaines. Donc la peur, la douleur, la colère, le doute. Mais aussi, comme je vous ai dit, l'espérance, la joie, trouver la paix dans les moments difficiles, en fait. C'est vraiment toutes les émotions qui peuvent être portées devant Dieu sans aucune honte. Parce qu'il n'y a pas de honte à se sentir mal ou à mal vivre une situation ou à se sentir complètement délaissé par... Dieu, en fait, il y a une certaine même limite légitimité à venir le présenter devant Dieu parce que Dieu est notre Père, toujours à l'écoute pour nous et toujours prêt à ce que nous allons mieux. Par exemple, si je dois donner un exemple de psaume, justement, le psaume 42, verset 7, qui dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est pourquoi je me souviens de toi, toi parlant de Dieu. » En français courant, c'est parce que je me sens pas bien que je me tourne vers toi, Dieu, en fait. Ce qui est un sentiment que on a tous éprouvé une fois, vous voyez, c'est comme par exemple, je sais plus dans quel épisode de la mini-série, j'expliquais que je me rendais compte que c'était à chaque fois que je souffrais que je me tournais vers Dieu et je me sentais mal pour ça. Alors que la vérité, c'est que numéro un, c'est juste que ma souffrance, en fait, reflétait à quel point est-ce que j'étais un être petit et combien est-ce que Dieu était grand et comment est-ce que finalement j'ai mes propres limites en tant qu'humain et que Dieu n'en a aucune. Et c'est pour cela que là, par exemple, quand je vous relis le psaume 42, verset 7, je me dis ce verset, genre, je l'ai vraiment éprouvé, je l'ai vraiment senti et je suis sûre que toi aussi, à ton échelle, c'est vraiment... Donc ça, c'était vraiment le premier point. Deuxième point, c'est vraiment une invitation à crier vers Dieu, tu vois. Parce que les psaumes, vraiment ce que je trouve intéressant dans les psaumes, c'est aussi que ça nous enseigne que crier vers Dieu dans la souffrance, c'est légitime. C'est-à-dire, c'est encouragé, c'est permis. Ne vous sentez pas mal de vous présenter à Dieu lorsque vous êtes au plus bas, en fait. Parce que le Seigneur est près des cœurs affligés. Ça aussi, c'est un psaume, mais j'ai pas la ref en tête. Et ensuite, j'élève ma voix vers Dieu et il m'écoute. Psaume 77, verset 2. C'est un rappel, du coup, encore une fois, de la fidélité de Dieu. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le psaume 23. Parce que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est le psaume 121. Parce que, encore une fois, j'élève ma voix vers Dieu et il m'écoute. C'est un présent de vérité. C'est-à-dire, c'est vrai en tout temps, en tout lieu. Si tu élèves ta voix vers Dieu, il va toujours t'écouter. Même si tu as l'impression que c'est pas le cas. Sachant que l'impression, c'est vraiment une impression. C'est pas une vérité. Donc, voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les psaumes, c'est une source de paix, d'espérance et c'est un rappel des promesses de Dieu pour nous. Si on prend le psaume, je crois, psaume 34, le psaume 34 dit « L'Éternel atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Toujours. Quelle belle promesse de Dieu à notre égard. C'est-à-dire... C'est pas parce que le malheur t'atteint que Dieu s'occupe pas de toi ou que Dieu ne va pas t'en délivrer, en fait. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est vraiment une source de paix, d'espérance et de rappel des promesses que Dieu a pour nous. C'est un rappel vraiment de la fidélité de Dieu. C'est vraiment incroyable. Les psaumes, c'est vraiment une mine d'or. Et c'est en ce sens-là que c'est un outil pour prier lorsque les manques de mots, voilà. J'espère que vous avez la ref. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit, quand tu es vraiment en pleine souffrance, t'arrives pas forcément à trouver les mots. Peut-être à cause de tout ce que tu vis qui fait que t'es complètement un être, t'es 100% subjectif, hein, t'as aucune objectivité. Donc tu sais que parfois ton cœur est rempli de haine ou de tristesse et que du coup ta prière, bon, voilà. T'as l'impression de ne rien avoir à dire à Dieu alors qu'en vérité t'en as gros sur la patate et tu sais pas comment le lui dire. Parce que bon, en général, on a quand même un certain respect profond pour Dieu, une certaine crainte de Dieu. Du coup, on va pas se mettre à mal parler à Dieu, tu vois. Mais les psaumes, c'est vraiment un outil pour prier lorsque tu as l'impression de ne plus avoir les mots. Dans les moments difficiles, du coup, comme je vous dis, c'est vraiment compliqué de trouver les mots pour prier. Et les psaumes, incroyablement, offre des prières qui sont finalement toutes faites. C'est ça qui est incroyable. C'est que les psaumes, ils te donnent des prières finalement qui... C'est-à-dire, la prière, elle est là. Elle t'attend. Elle t'attend, en fait. Elle attend que tu la lises et que tu t'en serves. Voilà. Et adaptée à de multiples situations. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a les psaumes quand tu es dans la joie. Il y a les psaumes quand tu es dans la joie, les psaumes quand tu es dans la tristesse. Tristesse, les psaumes quand tu as besoin de te rappeler des promesses de Dieu pour toi, les psaumes quand tu as besoin de te dire que finalement tu as besoin d'une situation de paix, etc. Tu as des psaumes adaptés à toutes les situations. Et finalement, ça devient une sorte de guide limite pour t'exprimer devant Dieu. Si je prends par exemple le psaume 143, alors là vraiment aujourd'hui sur cet épisode, il y aura un bon paquet de refs bibliques parce que niveau psaume, je vous ai donné de la matière. Donc, le psaume 143, verset 1, qui dit « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. » C'est vraiment C'est-à-dire, tu réalises vraiment que les psaumes, finalement, c'est une prière toute faite. Donc, lorsque les mots te manquent, là, j'ai pris un psaume, du coup, qui passe, finalement, quel que soit ton état d'âme. Mais c'est un outil pour prier lorsque les mots te manquent, dans une situation de souffrance, mais c'est aussi un outil pour prier lorsque tout va bien. Rappel, tu peux utiliser les psaumes pour prier lorsque les choses vont bien. Et à ce sujet-là, j'ai découvert pendant, il y a peut-être 6 ou 7 mois, qu'il y a un psaume, attendez, faut que je vous retrouve ça, psaume du roi David qui dit, oh là là, attendez, le psaume 33. Le psaume 33 qui dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Il faut savoir que ce verset, David l'a dit en pleurant. Hein. Genre vraiment, je vous épargne le contexte de tout ça, mais David l'a vraiment dit quand il était au plus bas. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je glorifierai dans le Seigneur. » Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur et il me répond de toutes mes frayeurs, il me délivre. Amen. Mais c'est vraiment cette idée de... Là, dans ce cas-là, si je... Genre le psaume, je suis désolée, le psaume il a l'air limite heureux. Hein. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Tu peux croire que c'est parce qu'il vient d'avoir le bonheur de sa vie qu'il dit ça. Mais en fait, non, c'est vraiment parce que... Il est dans une grande souffrance qu'il a dit ça. Et ça, je le trouvais vraiment intéressant. Je suis venue vraiment le plaquer comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est pas grave. On me pardonne. On avance. Donc, pour continuer sur cette idée des psaumes. Les psaumes, c'est une vision aussi de la souffrance à la lumière de Dieu. Parce que les psaumes t'aident un peu à comprendre que la souffrance est un peu... une perspective divine, tu vois, parce que les épreuves ne sont pas ignorées par Dieu et que même dans la douleur, il a un plan pour nous. Donc là, psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront dans avec des chants de joie. Il y a une chanson, je ne m'amuserai pas à chanter, mais il y a une chanson à la messe quand j'étais petite, ceux qui sèment dans les larmes. Bref, ceux qui ont fait la messe avec moi quand j'étais petite auront très probablement la ref, mais je n'en dirai pas plus parce que comme j'ai dit, je ne vais vraiment pas m'amuser à me mettre à chanter. Mais voilà, psaume 126, verset 5. Et puis, encore une fois, c'est vraiment un chemin vers la louange malgré la douleur, en fait. C'est vraiment un chemin vers la louange malgré la douleur parce que c'est un outil pour prier lorsque les mots te manquent, du coup, comme je l'ai dit. Mais beaucoup de psaumes commencent par des plaintes, mais se terminent par des louanges, en fait. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, quand je vous ai présenté mon cheveu sur la soupe avec mon psaume 33, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres », et je vous ai dit que ce psaume-là, cette phrase, elles ont été dites quand David était en train de pleurer, c'était un peu contradictoire. De la même façon, il y a beaucoup de psaumes qui commencent par des plaintes mais se terminent par les louanges. C'est-à-dire que ça t'invite vraiment à cultiver la gratitude envers Dieu, même en temps d'épreuve, parce que tu te rends compte que cette épreuve, tu vas la traverser et c'est un état en fait, ça va finir, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va finir en fait. T'es pas là pour souffrir pour toujours. Et par exemple, là pour illustrer ça, psaume 42, verset 12. Qui dit pourquoi t'as battu, enfin c'est David du coup qui se parle à lui-même, voilà, qui dit pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au dedans de moi, espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Là c'est un peu particulier parce que bon, comme je vous ai dit, c'est David qui se parle à lui-même, qui est en pleine souffrance. Et qui se dit, on pourrait se dire qu'il essaye de se convaincre que les choses vont aller mieux parce que c'est difficile, etc. Mais en fait, c'est juste lui qui a vu clair dans cette histoire, en fait. Parce que, honnêtement, espère en Dieu ton sauveur. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut Et mon Dieu, je ne vais pas l'abandonner parce que actuellement c'est dur, je ne vais pas me détacher de lui parce que actuellement c'est dur et que je ne comprends pas, mais je vais continuer de le prier et de vivre la relation que j'ai envie de vivre avec lui en fait. Et c'est vraiment ce que l'on doit tous expérimenter. Donc voilà, comme le contenu est audio, c'est un épisode qui est beaucoup plus long que les autres épisodes de la mini-série, mais très intéressant. Voilà, si c'était en vidéo, j'aurais fait l'épisode en deux parties parce que du coup il y aurait eu un épisode par rapport à l'amitié et l'autre épisode par rapport au psaume. Mais j'espère que vous avez un peu compris la complémentarité des faits et que j'ai pu éclairer votre lanterne et vous aider. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous et que mes mots vous porteront et vous aideront en cette semaine à méditer, à réfléchir. Si vous avez des amis à qui vous voulez partager tout ça, n'hésitez absolument pas. Si vous n'êtes pas abonné, bon, vraiment on dirait des annonces paroissiales, incroyable. Si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram du podcast, je vous invite à le faire. On est vraiment super sympa là-bas. Et si vous n'avez jamais visité le site du podcast, je vous invite à le faire. soul-fort-soul.com. C'est un site internet sur lequel finalement vous avez toutes les actualités du podcast. Tout. Donc il y a même les contenus audio qui sont disponibles sur le site. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, moi, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous et que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans très bientôt. Voilà.